Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravéli Lomel. Bonsoir Ravéli Lomel. Et immédiatement, je vous dis Chak Urim Samehar. Hanouka Samehar. Bonsoir à
vous.
Shavuatov, Rav Lomel.
Shavuatov.
Alors, Rav Eli Lomel, on va parler de Hanouka, évidemment. C'est, d'ailleurs, ce sera un véritable plaisir, un vrai délice. Mais moi, j'aimerais bien que vous nous rappeliez un peu, avec votre permission, les circonstances historiques, parce que finalement, on se prend tous un peu les pieds. Moi, je me les prends. Pourim, les Perses, les... Donc, je voudrais bien... juste un petit recadrage, nous dire en fait le cadrage historique. Et puis après, la grande question que se posent tous les Chachamim, qu'est-ce qu'on fête ? Parce que si l'idée, c'est de faire une fête qui dure depuis des millénaires pour une fiole d'huile, déjà même de quoi on parle une fois, 7 jours, hein, bon. Mais de quoi on parle, c'est le grand mystère de Hanouka. Mais avant toute chose, pouvez-vous, s'il vous plaît, je sais pas, nous dire comme ça, de manière nous rafraîchir un peu les esprits sur ce qu'est en fait la révolte de Hanouka.
Exact, exact. Alors c'est vrai que tout d'abord, ça serait intéressant peut-être de reposer justement le cadre, parce que bon, tout le monde sait, voilà, Hanouka, il y a une guerre, on a réallumé la fameuse menorah, le miracle des 8 jours. Alors, on est au deuxième siècle avant notre ère. On est donc à l'époque du Second Temple. Et puis, il y a une période de domination des Séleucides sur le peuple d'Israël, avec un certain Antiochus Épiphane. Donc, on est à l'époque de Yavanne, c'est l'Empire assyro-grec. Et puis, celui-ci, au fond, va chercher, comme disent nos maîtres, à obscurcir les yeux d'Israël. Donc, on n'est pas du tout ici dans une tentative de génocide, comme on en a souvent connu dans l'histoire, comme on va voir d'ailleurs à Pourim, mais on est beaucoup plus dans bien ce qu'on appelle un désir d'héléniser le peuple juif. C'est-à-dire, vous restez sur la terre, vous avez peut-être aussi le droit d'avoir encore ce qu'on appellerait des oripeaux de judaïsme, mais en même temps, eh bien, vous allez vous inscrire à l'intérieur de l'Empire. Et quelque part, beaucoup de Juifs vont céder à cela. Ne l'oublions pas, beaucoup de Juifs vont céder à cela. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont entre autres demander quelque chose. Alors évidemment, il faut comprendre ça au niveau de ce que ça veut dire, au niveau de la symbolique. Ils vont dire « Quittez-vous al-keren ashur en lanu chelek beloke Israël ». Ce qui veut dire « Écrivez littéralement sur la corne du taureau, nous n'avons pas de part dans le Dieu d'Israël » ou « Il n'y a pas de part dans le Dieu d'Israël ici ». Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici ? Le taureau, ses cornes, c'est cet animal fort qui est capable, au fond, de faire ce qu'il a besoin de faire dans ce monde-ci. Et ce qu'ils sont en train de dire, au fond, ben, vous allez écrire justement sur ces cornes qui représentent la force, la puissance, la réalisation. Eh bien, là-dedans, le Dieu d'Israël n'est pas là. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée, c'est de se dire, le divin existe, peut-être, vous avez le droit d'en avoir un, mais il n'intervient pas dans le monde. Ce genre de choses, au fond, c'est l'humain qui le crée. Et c'est ça, au fond, j'ai envie de dire, le premier message qui doit passer. Donc, reposer la relation au divin. Savoir que même si on accepte le principe de la divinité, mais on la circonscrit, on lui donne un cadre. Et évidemment, à partir de cela, eh bien, l'histoire est totalement différente. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils vont un moment dire « Bon, mais on met de côté aussi la circoncision, le Shabbat, le calendrier traduit de manière différente. La circoncision, ben, c'est cette capacité de voir Dieu, même dans l'intime, dans tous les moments de ma vie. Le Shabbat, c'est de le voir aussi dans le monde de l'économie, puisque Shabbat nous renvoie à l'univers de l'économie dans laquelle ben, l'individu se rend bien compte qu'il n'en est pas le maître. Et puis même au niveau cosmique. Et tout ça, ben, on va le mettre de côté. Et sur le reste, vous pouvez garder des choses si vous voulez, mais au fond, l'essentiel a disparu. Et c'est à ce moment-là où se lèvent justement ces fameux Maccabim. Alors, si vous regardez le début de l'histoire, ils sont 13. C'est une grande table, quoi. Ils sont 13. Mais ils disent, c'est pas possible. Et à partir de là, évidemment, tout le processus se met en place de la révolte avec une stratégie passionnante, parce que si vous regardez, c'est une forme de stratégie de résistance, de harcèlement, il démoralise l'ennemi parce que celui-ci ne sait jamais par qui et par quoi il va se faire attaquer. Et puis après, les choses avancent jusqu'au moment où il y a cette victoire. Donc ça, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le cadre de ce qui se passe. Avec, ne l'oublions pas, à l'intérieur même du peuple juif, un combat. C'est-à-dire que bon nombre de juifs de l'époque se sont totalement hellénisés et pour eux, ils ne sont pas d'accord. Donc il y a et à la fois ce combat contre la puissance occupante qui aujourd'hui, dans notre lecture, ben, au fond, laisse tranquille les gens, même s'il leur demande de changer certaines choses, et aussi, une bonne partie du peuple juif n'adhère pas nécessairement à ce combat des Maccabées, mais il va falloir quand même tout un temps jusqu'au moment où ils vont l'accepter. Et évidemment, à partir de cela, on va voir ces deux miracles. Alors, la question qui se pose, au fond, c'est que on va célébrer deux choses à Hanouka, si vous regardez, puisque dans les textes de la prière que l'on va prononcer en plus à Hanouka, qui est le fameux Alanissim, ce texte dans lequel on rappelle les miracles, on ne parle pas du miracle de la fiole. On ne parle pas du tout des miracles de ces huit jours où la lumière de la menorah a brûlé alors qu'elle aurait dû brûler qu'un jour. On parle de la victoire, Et puis à la fin, on dit, et puis ils reviennent, et puis ils ouvrent, ils allument, mais aucune allusion. Et puis par ailleurs, on fait ce geste d'allumer cette Hanoukia pendant ces huit jours. Comme si on était en train de nous dire, il faut être capable de voir dans les deux le miracle. C'est-à-dire, il y a le miracle évidemment flagrant, ça devait brûler qu'un jour et puis ça va brûler huit jours, mais il y en a un autre. Parce que celui-ci aussi, il faut le voir, parce que c'est ça aussi le message de Hanouka, être capable de voir aussi ce miracle de cette victoire qu'on aurait pu lié à des capacités militaires particulières, à une stratégie particulière qui est bien présente en plus. Mais non. Et ça, je crois que c'est aussi un message fort. C'est-à-dire que quand on est à Hanouka et qu'on est à la fois en train d'allumer ses lumières et en même temps, on va rajouter ce texte dans la Tfila, on est en train de se dire, mais nous devons voir les deux choses comme étant l'expression d'un miracle, c'est-à-dire de la présence du Créateur dans l'univers. À partir de là, évidemment, ce qui interroge, c'est qu'est-ce que ça symbolise au-delà de ce concept par rapport à nous. Alors, ces fameuses lumières que l'on est là et que l'on expose, puisqu'il y a cette notion qui est rarissime, même qui est unique ici, de Pirsouma de Nissa, c'est-à-dire véritablement de proclamer le miracle, alors que de manière générale, à Pessah, on ne demande pas d'aller faire le céder de Pessah à l'extérieur, que tout le monde le voit. De manière générale, ça se passe à la maison et à tous les niveaux, dans toutes les mitzvot. Et là, non, il faut absolument faire savoir. Et il y a ici une idée au fond fondatrice, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un désir d'assimiler le peuple juif, c'est-à-dire de lui laisser des oripeaux de judaïsme et de faire en telle sorte qu'il s'en satisfasse, mais mettre de côté sa singularité, sa spécificité, c'est là où il faut dire non, contre ça on se bat. Contre ça on se bat, parce que ça c'est au fond le danger réel. Le Pirsouma de Nissa, c'est montrer cette capacité qu'ont eu les Maccabim de réaliser que derrière ce que proposait l'Empire assyro-grec, c'était la destruction définitive du peuple d'Israël. Et donc, même si une partie du peuple ne comprend pas à ce moment-là, parce qu'au fond, ils disent « bon, mais alors c'est bon, ça va, on peut gérer quand même », eh bien non, ce n'est pas possible. Ils se lèvent et ils se disent « ce qui est important, c'est de se lever contre ». Ah, est-ce qu'on va gagner la bataille ou pas? On n'en sait rien. Et c'est un petit peu la même chose que quand ils vont allumer cette fameuse Hanoukia, enfin pas Hanoukia à l'époque, c'est une menorah. Notre fonction, c'est de réallumer les choses, c'est de les faire de nouveau exister. Maintenant, évidemment, est-ce que ça va pouvoir, pardonnez-moi, est-ce que ça va pouvoir faire aboutir quelque chose? Ça, on n'en sait rien. Ça, il y a quelque chose qui ne dépend plus de nous, mais ce que l'on demande ici, c'est faire preuve de ce qu'on appellera par la suite de Mesirut Nefesh, c'est-à-dire de don de soi, de capacité de se dire, si nous inscrivons la logique à l'intérieur de la démarche, eh bien, au fond, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que la question sera toujours présente, parce que le doute sera là, et donc, dans la mesure où la question sera présente, le doute sera là, eh bien, on n'arrivera pas jusqu'au bout. Alors, on met ça de côté, on agit, on fait à notre niveau par rapport à ce que l'on pense pouvoir faire, et puis après, eh bien, les choses, ne nous appartiennent plus. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on considère que Hanouka, c'est aussi la fête de l'éducation. C'est-à-dire une fête dans laquelle on se rappelle qu'éduquer un enfant, eh bien, c'est se dire, voilà, nous, on va faire ce qu'on doit faire. Et puis, il y a quelque chose à un moment qui ne nous appartient plus. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on a essayé de faire ce qu'on devait faire. Et au passage, intéressant de voir que l'huile doit être pure. Parce que quand on recommence une histoire, quand on construit une histoire, il faut que la base soit la plus saine possible. Et même si on ne sait pas comment ça va se perpétuer, mais le fait que la base soit la plus saine possible est une forme de garantie sur la pérennisation de l'histoire, même si à notre niveau, à nous, on n'arrive pas véritablement à le voir, à le percevoir. Mais ce n'est pas grave, on le fait et on y va. Et puis après, eh bien, c'est là où en effet la notion du Ness, c'est là aussi la notion du miracle intervient, parce que justement, de notre côté, on a essayé de faire ce qu'on était censé faire. Et après, nous remettons les clés du futur dans les mains de Dieu.
Eh bien, on va suivre ce très beau programme. En vous remerciant, Rav Lemel, en vous souhaitant une belle soirée de Hanouka.
Et donc à sa mère, à tout le monde.
À tout le monde. Et de Motsé Shabbat, Hanouka sa mère. Et Shavua Tov, Rav Lemel.
Shavua Tov.
Et Rav Mordechai Bitton est en ligne avec nous de Jérusalem. Rav Mordechai Bitton, bonsoir et Shavua Tov.
Shavua Tov, Shavua Tov.
Chanukah Sameach.
Très très bonne nouvelle pour nous cette semaine.
Et Chanukah Sameach, la fête des
lumières. Évidemment, Chanukah Sameach, que la lumière de Chanukah illumine nos âmes, nos vies et le monde.
Et en plus chez vous c'est beau. Hein. C'est-à-dire j'ai eu moi, Chanukah à Jérusalem, c'est quelque chose.
Mais même à Gaza d'ailleurs.
Alors, mais j'ai même vu là, qu'ils ont mis à Sderot, ils ont mis une Chanoukia grande de 3 mètres.
Or, les yeux du monde sont tournés vers Gaza et les Chabad ont posé à Gaza sur le toit d'un immeuble une Chanoukia. Donc, c'est ça. C'est bon. Là, on est vraiment dans la diffusion du NES au niveau mondial.
Avec. Ils ont, donc, voilà, moi, je vais faire mon journaliste 2 minutes. Ils ont mis un panneau sur cette Chanoukia, que je dis 3 mètres, c'est beaucoup plus haut, c'est une très très grande Chanoukia, à l'endroit de où il y avait le commissariat de Sderot, qui a été entièrement rasé après les combats, parce que les terroristes avaient pris le contrôle, et il a été tellement bombardé le bâtiment qu'il ne reste plus rien. Ouais. Et ils l'ont bombardé même avec des hélicoptères pour qu'on voit la violence des combats. Et ils ont mis, donc c'est entièrement rasé dans un endroit où on ne s'attendait pas à cette violence, évidemment, on parle du 7 octobre. Ils ont mis « Personne ne pourra éteindre notre lumière ». Ils ont le geste.
C'est l'enseignement de Hanouka, hein, c'est l'enseignement fondamental de Hanouka. C'est ce or, cette lumière qui est une lumière matérielle, c'est des bougies, mais elle reflète une lumière spirituelle, c'est vrai qu'elle ne s'éteint jamais. C'est un enseignement fondamental, même dans cette, surtout dans cette période
surtout là,
où tellement de gens s'acharnent à éteindre la lumière d'Israël. On voit qu'elle est là.
Alors, nous, on va quand même réfléchir avec vous à notre paracha, même si, évidemment, absolument, toutes les parachiotes sont toujours liées aux fêtes qui vont avec, j'ai envie de dire. Et ben justement, tiens, on va faire le lien avec ce qu'on vient de dire. Miketz, on l'a dit, c'est Yosef, notamment, il y a plein de choses, mais notamment le passage où Yosef interprète le rêve de Paro, de Pharaon, et celui-ci le fait sortir de sa prison. Mais vous, ce qui vous a frappé, c'est qu'il le fait sortir quand même très vite pour une histoire d'interprétation de rêve et que très vite, il est passé de l'obscurité à la lumière. Et pourquoi je dis que c'est lié à l'actualité ? Bah, parce que ça nous fait penser aux otages. C'est vrai que les otages, eux aussi, ont été vraiment sont sortis en quelques minutes, quoi, de... Et on les a revus, on les a retrouvés, surtout les enfants d'ailleurs, c'est surtout eux qui m'ont frappé, Julie, Emma. Voilà, ils retournent tout de suite dans leur famille, et on est très surpris de les voir retrouvés à la lumière comme ça, comme, j'ai presque envie de dire comme avant, même si les séquelles doivent être terribles.
Absolument, alors, on a une règle, vous savez, c'est que la paracha pose toujours, la section hebdomadaire pose son empreinte sur l'actualité. Alors, il y a quand même, On va se risquer à un pronostic. Avec des grands guillemets, mais les espoirs sont permis. L'espoir est permis. Au chapitre 41, verset 14, il est effectivement écrit que Pharaon va envoyer chercher Yosef. Et donc, il le fait appeler, et la Torah utilise le mot « vayeritsuhumi » d'abord. Il le fait sortir de la prison dans laquelle il était avec une très très grande rapidité. Lorsqu'on est venu chercher Yosef, le moment où Hachem a décidé que Yosef devait sortir de son trou, tout s'est fait, en quelque sorte, en quelques heures. On le sort de son trou, on le lave, on le rase, on l'habille, on lui donne des beaux habits, on le pomponne, et le voilà devant Pharaon, alors que quelques heures auparavant, il était un prisonnier oublié de tous. Et en fait, ce qu'on apprend de là, c'est que lorsque Hachem a décidé que vient l'heure d'un homme, vient l'heure de la délivrance pour un homme, cette délivrance, elle se fait, Yeshua Hachem qui réfaille, mais elle peut se faire en un clin d'œil. Alors c'est peut-être une allusion ici à ce qu'on attend, c'est-à-dire la délivrance des otages qui restent encore à Gaza. Peut-être que cette semaine, on va assister à la délivrance de tous ces otages en quelques minutes, quelques heures. On espère sains et saufs. Voilà ici un verset de la Parasha qui nous invite en tout cas à pouvoir prier, à pouvoir nous renforcer dans cet espoir. Alors, vous m'avez dit aussi, le point le plus fondamental aussi du début de cette Parasha de Miketz, c'est qu'en fait, Pharaon, sur la simple foi de l'interprétation d'un rêve, prend un homme qui est complètement inconnu, on va dire un va-nu-pied, qui était en prison quelques heures auparavant, et il le nomme vice-roi d'Égypte, simplement parce qu'il a interprété un rêve. Alors nos maîtres se sont penchés sur cette question, et ils ont répondu de manière très surprenante, on va essayer de comprendre ici quelle influence ça peut avoir pour nous aujourd'hui. Pharaon va dire à Yosef, écoute, maintenant que Dieu t'a fait savoir cela, il t'a fait savoir la solution des rêves que j'ai rêvés, Dieu t'a fait savoir l'interprétation des rêves, et cette interprétation, je sais qu'elle est vraie. D'accord, on rappelle que donc, il avait rêvé de vaches maigres qui sortaient d'un fleuve et qui mangeaient des vaches grasses, également des épis de blé maigres qui mangeaient des épis de blé plus épais. Et donc Yosef était capable de fournir l'explication. Il dit, je sais que Dieu maintenant t'a révélé tout ça, il n'y a pas plus sage que toi, et donc maintenant je te nomme donc intendant sur l'Égypte, intendant donc sur ma maison. Alors pourquoi finalement, qu'est-ce qui a attiré l'attention de Pharaon ici? Le sabbat de Kelem, grand maître du Moussa, il disait que Paro a vu la crainte du ciel. Alors il faut s'interroger sur ça, qu'est-ce que ça veut dire pour Pharaon qui lui-même se prenait pour un dieu, la crainte du ciel. Mais en fait, c'est dans la réponse de Yosef que Pharaon a vu quelque chose qui a attiré son attention. Pharaon était entouré de ministres, de courtisans, de chefs militaires orgueilleux qui venaient devant lui s'enorgueillir des services qu'ils avaient rendus à la couronne, et chacun montrant sa force, sa sagesse, son intelligence, et donc chacun s'enorgueillissant de tout ce qu'il était capable de faire au service de la couronne. S'il y a une chose que les potentats et les rois et les dictateurs comme Pharaon craignent, c'est précisément la réussite. Et la réussite et l'orgueil qui vient après de leurs ministres et de leurs courtisans. Mais chez Yosef, il n'a pas vu ça. Yosef, lui, lorsque Pharaon va lui dire, voilà, tu peux répondre donc à mes rêves, la première réponse de Yosef, Vayan Yosef, il dit, Yosef au Passouk 16, il dit, Bil Adai Elokim Yane. C'est pas moi qui réponds, c'est Dieu qui répond. Et c'est lui qui va amener la paix pour Pharaon. Et ça, c'est l'élément, dit le Sabbat Mikelem, qui a attiré l'attention de Pharaon. Voilà un homme qui est doté visiblement de très puissants moyens de comprendre l'avenir, de comprendre la situation dans laquelle on est, mais cet homme ne s'attribue pas les principes. Mais je suis entouré de gens qui passent leur temps à s'attribuer à eux leur réussite, leur intelligence, leur savoir-faire. Et cet homme-là dit, c'est vrai que j'ai un savoir-faire. Mais c'est Dieu qui le gère, c'est Dieu qui me l'a donné, et c'est Dieu qui me permet de l'exprimer. C'est-à-dire, je ne m'appartiens pas, j'appartiens à une force qui est plus puissante que moi. Qu'est-ce qu'il sent ici, Pharaon? Il sent ici à la fois la puissance de Yosef, la force de Yosef, mais en même temps la modestie de Yosef. Et il dit, cet homme-là, c'est un homme en qui je peux avoir confiance. Cet homme-là, il ne va pas me trahir, il ne va pas me tromper. Il faut se rappeler que le Midrash rappelle également que lorsque Yosef gravissait les marches du trône de Pharaon, il y avait 70 marches qui représentaient les 70 langues. Lorsqu'il va arriver à la 70e marche, Yosef s'adresse à lui en lâchant la Kodesh en hébreu et Pharaon ne peut pas répondre. Et là, il lui dit, ça restera entre nous. Ne dis à personne que tu maîtrises cette langue que moi je ne maîtrise pas. Effectivement, c'est un accord que Yosef va respecter. En amont commençant, Pharaon va voir ici un homme qui est un homme puissant et modeste. Et c'est cette modestie qui va attirer son attention. Et là, il y a un point qui est un point tout à fait fondamental. D'où vient cette capacité de Youssef, finalement, d'attribuer à Hachem sa réussite? D'où lui vient cette modestie? Il lui vient de cette tsniout. Tsniout qu'on traduit par la pudeur, de pudeur, discrétion, mais qui, en fait, dans le langage de nos sages, rime avec adinout, avec raffinement. En fait, Youssef est un homme raffiné. Vous savez que dans Parashat Vayeshev, la section de Bata la semaine dernière, chaque fois qu'on a parlé de Youssef, on a parlé de Youssef comme étant un Ish Matsliar, quelqu'un qui réussit. Il se retrouve chez Potiphar, il réussit. Il se retrouve en prison, on lui confie la direction de la prison. Il se retrouve chez Pharaon, à nouveau, on voit sa réussite. Qu'est-ce qu'on voit chez Youssef? On voit de la réussite, mais on voit que c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, n'est pas obsédé par cette réussite. Il est simplement connecté à Hachem. Nos sages disent de manière plus forte encore qu'en fait, il répétait en permanence les noms saints, les Shemot HaKdoshim, les noms saints de Dieu, et il invoquait en permanence la protection divine, la réussite, que Hachem soit avec lui, qu'il l'accompagne, comme il l'avait vu d'ailleurs quand il a été vendu par ses frères. Il avait été vendu à finalement une caravane d'Ishmaélim, et Rachid dit les Ishmaélim ont l'habitude de transporter du neft, du pétrole, on dirait aujourd'hui, d'accord. Et finalement, cette fois-ci, c'était Ishmaélim qui transportait des Bossem, qui transportait des, comment dirais-je, des parfums. Et donc il a vu dans ce geste-là la main d'Hachem qui l'accompagnait. Et Youssef n'a jamais cessé de penser, de comprendre et de voir et de visualiser la main d'Hachem qui l'accompagnait. Et donc il n'est pas étonnant que branché sur cette fréquence-là, quand il se retrouve en Pharaon, il n'a pas de problème à dire ben, « c'est Hachem qui m'accompagne ». Et ça, c'est ce que Pharaon va comprendre. Ce n'est pas un message inventé pour la circonstance. C'est l'être même de Youssef qui respire cette crainte du ciel et cette modestie et cette discrétion. Et ça, pour un potentat, pour un roi, c'est effectivement la meilleure des choses. Et ici, finalement, un enseignement pour chacun d'entre nous. On prie tous et on veut tous finalement obtenir de la réussite, de la reconnaissance. On veut pouvoir être performant dans ce qu'on fait. Et finalement, ce qu'on apprend de Youssef, c'est que finalement, l'endroit où on se trouve, c'est l'endroit où Hachem veut qu'on se trouve. Et la hatzlacha, la réussite qu'on va avoir, est une hatzlacha que Hachem nous donne pour faire rayonner son nom, pour être Mekadesh, Shem Shamayim, pour sanctifier le nom divin. Avis à tous les juifs qui occupent des postes importants, avis à tous les juifs qui font entendre leur voix un petit peu partout dans le monde. Sachez, mesdames, messieurs, si vous êtes là, c'est pour faire entendre une voix qui n'est pas la vôtre, qui est celle que le peuple juif transporte dans son histoire depuis 3000 ans. Parce qu'il faut bien se rappeler, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, que le peuple juif n'est pas né il y a 75 ans avec l'État d'Israël, n'est pas né en 1897, il n'est pas né avec le premier conventionniste, n'est pas né il y a 200 ans avec la chute des murs du ghetto, il est né il y a 3300 ans et au pied du mont Sinaï. Et le peuple juif transporte une voie qui n'est pas la sienne. Il transporte une voie qui est celle d'Hachem et qu'il parcourt et qu'il étudie et qu'il apprend à intégrer dans son expérience existentielle, que ce soit individuel ou collectif. Mais le peuple juif, il témoigne qu'il existe autre chose. C'est ça la force. Le peuple juif témoigne qu'il existe avant le monde, pendant le monde et après le monde et au-dessus du monde. Autre chose qui justifie et explique l'essence et l'organisation et l'existence du monde. Et ça, c'est un témoignage qui est fondamental. C'est aussi ce qui apparaît chez Youssef. Youssef témoigne qu'il existe une autre dimension. Et cette autre dimension, Pharaon, qui se prenait pour un dieu, ne pouvait que se coucher devant elle et ne pouvait que décider de faire confiance à un homme qui était capable de porter ce témoignage. Voilà, à toutes et à tous, Shavua Tov. Et que la lumière de Hanouka nous éclaire et qu'on mérite eh bien, cette délivrance pour laquelle on prie 3 fois par jour. Voilà, Shavua Tov.
Shavua Tov, et on ne résiste pas au plaisir de se dire Hanouka Sameach.
Hanouka Sameach.
Hanouka Sameach. À la semaine prochaine, Rav Mordechai Biton à Jérusalem. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Voilà, cette émission est à présent terminée. On excuse évidemment Rav Gué, qui fait partie de notre émission, c'est évident, et qui n'a pas pu enregistrer avant Shabbat en raison d'un agenda très serré, c'est vrai. Que Shabbat est le plus court de l'année. Est-ce que vous avez remarqué, c'est celui qui rentre le plus tôt, à 16h30 et quelques, je crois. Voilà. Excellente soirée à tous, Shavua Tov, et vous retrouvez dans un instant, du côté de chez Schwartz, c'est une émission qui vous est présentée par Sandrine Schwartz.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoyim.